Il était une fois une étudiante en communication appliquée qui a parfois l'impression de venir d'une autre planète, même si elle est réellement originaire de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. En cherchant sa place dans le monde, elle fait certains choix, en apparence à contre-courant. Toutes ces manières de donner du sens à nos vies, ça la fascine, tant chez elle que chez les autres. Elle aura la chance d'y plonger encore plus en profondeur.
Salut, c'est moi, Amy. Vous écoutez Les histoires qu'on se raconte, un balado de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Cet épisode couvre large. Vous entendrez parler de musique et de poésie, d'anarchisme, de subventions, de temps supplémentaire obligatoire et de la mort. Vous êtes encore là? Ouf, tant mieux. Je pensais vous avoir perdu à subvention. Si les thèmes abordés sont aussi variés, c'est que le sujet de cet épisode est, comment dire, vaste. Réussir. C'est difficile à définir pour moi. Si, selon les conventions, je performe plutôt bien, disons, à l'école, j'ai pas l'impression d'avoir été plus ou moins heureuse que d'autres. Et mes succès, scolaires ou non, me libèrent pas de cette pression floue, de l'idée que, pour que je dise avoir réussi ma vie, mon parcours doit être, en quelque sorte, parfait. Ça vous parle? Je m'en doutais bien. Alors, je me suis demandé, quelles sont les histoires qu'on se raconte sur la réussite? J'ai la chance que ma faculté compte l'École de musique et le Département des arts, langues et littérature, ou DAL pour les intimes. Pourquoi la chance? Parce que, avec une carrière en partie publique, les artistes me semblent avoir une relation particulière avec la réussite. Leurs succès sont vus, et leurs échecs aussi. Quatre artistes au domaine et au parcours différents ont accepté de partager avec moi leur vision et leurs expériences. Auteur, compositeur, interprète, Ellie Gagné, aussi connue comme Ellie Woods, est diplômée de l'École de musique, tout comme Joël Lupien-Faneuf. Joël, lui, est compositeur pour multimédia. Si son nom vous est familier, c'est peut-être parce que vous écoutez jusqu'au crédit de ce balado, dont il a composé l'indicatif musical. Professeur au DAL, Stéphane Martelly fait de la création multidisciplinaire entre les arts visuels et l'écriture, avec une préférence pour la poésie. Sébastien Peuzeau est lui aussi un artiste visuel, influencé notamment par le punk rock. Il travaille avec des images fixes et des vidéos, ou crée des performances. Sébastien est chargé de cours depuis 21 ans, au DAL et au département de communication. Je leur ai d'abord demandé ce que représente le succès à leurs yeux.
Le succès, c'est beaucoup plus par rapport à la satisfaction de faire quelque chose dont tu es fier, de créer quelque chose qui fait en sorte que tu es capable d'être toi-même, et puis si par le fait même tu es capable d'aller chercher et de toucher les autres, ben je pense que c'est tant mieux.
Mais en même temps, si l'arbre a tombé dans la forêt puis que personne ne l'a entendu, est-ce qu'il est vraiment tombé? Tu sais, donc si tu as fait une bonne œuvre puis personne ne l'a vu, as-tu vraiment fait une bonne œuvre? C'est comme plus fort que moi, là, c'est rendu que c'est important. Même si je sais que ce qui est important, finalement, c'est de faire sa création, ben au final, si je la fais juste comme un ermite, ça ne me satisfait pas.
La réponse la plus simple, c'est de dire que le succès, c'est la part visible de mon travail. Mais justement, c'est parce que derrière cette part visible, il y a tout un iceberg de création, il y a tout un iceberg qui contient un peu toutes les impasses où je me suis précipitée à cœur joie. Et donc, quand on voit la part visible, c'est la petite pointe qui dépasse. Voilà.
Ce qui est vu et ce qui est caché, notre fierté personnelle et la reconnaissance des autres. La réussite se dessine selon des échelles multiples, complémentaires, aux barreaux plus ou moins espacés et plus ou moins importants. C'est plus clair, mais pas moins flou. Vous comprenez? Pour m'aider à démêler tout ça, j'ai discuté avec Alain Letourneau, professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée. Alain utilise la philo et l'éthique comme des outils, des leviers pour mieux comprendre et habiter le monde. Il explore ainsi plusieurs sujets, depuis le début de sa carrière. En ce moment, il s'intéresse beaucoup au pragmatisme, un courant philosophique qui analyse les effets et l'utilisation concrète d'une idée dans la réalité. Idéal, donc, pour détricoter une notion aussi nébuleuse que le succès.
En général, l'action humaine, quelle qu'elle soit, a toujours un but. J'ai faim, je veux manger, bon, ben, je me fais à manger. Donc, à la limite, se faire à manger, c'est un genre de succès. S'habiller, c'est un succès aussi, c'est un succès élémentaire, mais souvenons-nous que les petits-enfants, les jeunes enfants, apprendre à s'habiller, c'est tout un travail. Donc, il y a des apprentissages qu'on fait au long de la vie. La question du succès et de l'échec est très vaste parce que les actions sont susceptibles d'échec ou de succès. Toutes les actions. Mais non seulement ça, c'est qu'il y a le fait d'avoir du succès puis le fait d'avoir une performance extraordinaire dans cette chose-là. Parce qu'on peut avoir du succès à l'école, mais parfois, on va ajouter une coche supplémentaire. Assez souvent, on va ajouter une coche supplémentaire en termes d'excellence. Et là, c'est qu'on veut un succès exceptionnel. Mais c'est deux choses différentes. Prenons par exemple la vie relationnelle, la vie amicale, la vie amoureuse. Ce sont des domaines très importants de la vie humaine, à l'intérieur desquels aussi on peut vivre des succès et des échecs. Quelqu'un qui vivrait des échecs amoureux ou des échecs amicaux à répétition, c'est sûr que cette personne-là ne pourrait pas s'en sentir mieux ou se sentir épanouie à l'intérieur de ça. Donc, il y a une question importante de savoir avoir une espèce d'équilibre aussi dans la vie entre un certain nombre d'éléments importants. Supposons qu'une personne est en premier cycle à l'université, là, s'aperçoit qu'elle a le goût de faire des études prolongées. Mais ça va vouloir dire peut-être avoir un effort supplémentaire pour obtenir de meilleurs résultats académiques. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, la personne va se démarquer et ça va lui permettre d'aller chercher du financement au cycle supérieur. Mais pour une autre personne, cette affaire-là de réussite en termes de succès dans les cours, en termes de bonnes notes, etc., la personne, ça n'a pas vraiment d'importance tant que ça. Parce que si, par exemple, la personne elle se dit « Moi, je veux déboucher dans la vie professionnelle assez rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller travailler pour la radio communautaire. » Cette personne-là n'a pas des contraintes à l'excellence au niveau de ses résultats scolaires autant que l'autre personne. Elle va avoir d'autres types de contraintes qui sont liées à ce qu'elle veut faire. Ben, qu'est-ce que c'est ton élocution? Est-ce que tu es capable de prendre des respirations quand tu parles? Est-ce que tu es capable d'écouter les personnes à qui tu poses des questions? Donc, c'est d'autres exigences. C'est-à-dire, il n'y a pas un modèle unique. On n'est pas des robots, on est des individus, on est des personnes, on est capable de réflexion puis de prioriser des choses. Et ça, ça touche vraiment à la question éthique parce que l'éthique, c'est une réflexion sur quel est le bon agir. Mais un des problèmes qu'on rencontre souvent dans la réflexion éthique, c'est pas le fait d'avoir à choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est une caricature de comic book, de film de Marvel là, ou de DC. La réalité est pas mal plus compliquée que ça. Dans la réalité des choses, on a à choisir entre des biens opposés puis entre des valeurs différentes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime, il y a beaucoup de choses qu'on valorise, puis c'est par rapport à ça qu'on a de la misère à se placer et à dire « Voici ce que moi je veux vraiment. » Puis en même temps, ça, c'est un processus qui prend un certain temps aussi. Je trouve des fois qu'on demande très rapidement aux jeunes de se fixer une fois pour toutes sur qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Là. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir un modèle de vie où on dirait « Fais de l'exploration pendant quelques années, là, puis dans 5 ans, on s'en reparlera. » Il faut se donner le temps de réfléchir aussi. Puis peut-être de faire des expériences quand c'est possible, d'aller voir des gens qui connaissent un domaine, de voir comment ça se passe. Le temps qu'on va mettre dans une chose qu'on veut réussir, on ne le mettra pas dans d'autres choses. Fait qu'à partir de là, il faut prioriser. Mais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'arrêter puis réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous maintenant. On veut tout avoir en même temps, tout de suite. Ça, c'est notre culture qui est comme ça, parce qu'on est dans une culture, société consumériste. Mais non, c'est parce que dans la temporalité des choses, les choses vont se présenter dans une certaine séquence. C'est un peu frustrant, en un sens, parce que oui, on voudrait avoir peut-être tout avoir en même temps, mais c'est impossible. Plus on va multiplier les objectifs et les buts qu'on poursuit en même temps, plus on a des risques d'échec ou de demi-succès, on va dire. C'est pas super. Parce qu'il n'y a pas juste l'échec et la réussite, encore une fois. Tu peux avoir la réussite extraordinaire comme tu peux avoir la réussite passable, on s'entend? Bon, mais il y a des secteurs de la vie où passable, c'est pas assez.
J'ai voulu entendre les artistes sur le genre de succès qu'ils et elles recherchent dans leur vie professionnelle. Comment juger son ampleur?
Moi, j'aime mieux toucher juste une personne qui va vraiment comme, comprendre l'essence de ma chanson, plutôt que justement... J'avais une chanson que j'ai poussée vraiment fort, qui a passé à la radio, qui s'appelait « L'art de cacher son malheur », puis ça parle vraiment des mal de notre société. Puis ce que je me suis toujours dit, c'est que s'il y a une personne qui écoute, mettons, Énergie, puis que ça passe à la radio à 10 heures le soir, puis qui se sent pas bien, puis il écoute les paroles depuis une seconde, puis il fait comme « Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose, tu sais. » Juste ça, ça va valoir beaucoup plus pour moi que... les 100 000 personnes qui ont entendu la chanson au cours des 6 mois qui avaient passé, t'sais.
Quand la reconnaissance arrive, je suis toujours, je ne le déclare pas, mais je suis toujours un peu surprise. Parce que c'est vraiment pas l'horizon avec lequel je crée. L'horizon avec lequel je crée est quelque chose qui est derrière, ou bien qui est dans un futur très lointain, peut-être que moi je ne verrai pas. C'est une attitude que j'ai adoptée très très tôt dans mon travail de création, de penser que finalement personne ne s'intéressera à ça maintenant. Ça peut sembler triste, mais pour moi, c'est extrêmement libérateur de penser comme ça. La reconnaissance, c'est vraiment la dernière préoccupation sur ma liste. Pour moi, la réussite, c'est quand l'œuvre que j'ai créée a réussi à accomplir ce que j'espérais qu'elle accomplisse. Mmh. Et puis, ça peut être en elle-même, ça peut être dans le retour de quelqu'un, ça peut être dans la manière dont les gens se l'approprient. Ça, pour moi, c'est vraiment un petit miracle chaque fois, qui me surprend profondément chaque fois.
Le nombre ou la profondeur? Le langage universitaire parlera d'évaluation quantitative, la quantité, et qualitative, la qualité. Cette idée, Alain l'a explorée assez rapidement dans le fil de notre conversation. Parce que la manière d'évaluer change beaucoup de choses.
On dirait qu'on a souvent une approche quantitative. Le chiffre est un peu magique. C'est pas toujours adéquat d'avoir une approche quantitative. Dans bien des cas, ce n'est pas adéquat du tout. Moi, je suis directeur d'une école secondaire. Disons, avant la pandémie, j'avais un taux de succès de 88%. Là, en 2023, je suis rendu à 62%. Je capote, puis je suis en train d'être moins efficace comme responsable d'organisation. On va me taper sur les doigts. Fait que là, je vais prendre des mesures pour compenser ce relatif échec ou cette diminution de la performance chiffrée. Mais rien nous dit que voir le problème, voir la situation comme ça est une bonne façon de la voir. Puis, quelles sont les mesures après qu'il va falloir établir? Tant est qu'on admet la prémisse selon laquelle ça serait effectivement meilleur qu'il y ait plus de gens qui réussissent, comment est-ce qu'on s'y prend après pour le faire? Est-ce que c'est en rendant les examens plus faciles? Est-ce que c'est en faisant des fins de semaine intensives de travail, en faisant du coaching, en faisant des équipes, en faisant des réunions? Mais là, il faut avoir d'autres contraintes.
Vous êtes allé à l'école, peu importe le niveau. Vous avez probablement une relation ambiguë avec les évaluations scolaires, les fameuses notes. Le systématisme de ce ressenti m'a donné envie d'en parler avec quelqu'un qui s'intéresse justement au système et aux gens qui les forment. Professeur à l'École de travail social, Baptiste Gaudry a une formation de sociologue. Il travaille principalement sur le développement des communautés et les enjeux de pauvreté, de marginalité et d'exclusion. Baptiste, il se passionne pour les points de convergence entre les gens, pour la mise en commun de leur intelligence et de leur force. En travail social, ça s'appelle l'intervention collective. Pensez, par exemple, à l'organisation communautaire. Baptiste m'a expliqué beaucoup de choses sur notre relation collective au succès et à l'échec, notamment dans le système scolaire.
Je pense que 90% des courriels que je reçois portent sur les modalités d'évaluation. Pas parce que c'est pas clair dans le plan de cours, parce que c'est anxiogène. Beaucoup de travaux en sociologie montrent qu'on part pas tous et toutes à égalité sur la ligne de départ par rapport à ce qui est attendu de nous sur les bancs de l'école ou sur les bancs de l'université. Et ces travaux soulignent que la réussite, c'est pas la pure intelligence. C'est vraiment la force du milieu familial, ce qu'on appelle la socialisation primaire. Et un exemple, c'est le travail qui est réalisé par un sociologue qui s'appelle Bernard Lahir, qui regarde les attitudes que les profs, les enseignants dans les milieux scolaires valorisent. Et ce qui est valorisé, c'est beaucoup le raisonnement abstrait. Il parle qu'on favorise le regard distancié sur le monde, un regard qui qualifie d'esthétique, pouvoir apprécier les choses de l'extérieur, pouvoir les qualifier. Un regard réflexif au détriment de formes sociales orales que lui associés aux classes populaires. Les enfants des classes favorisées, en quelque sorte, connaissent d'avance ces codes-là et donc forcément vont mieux performer. Même si ces enfants-là ne savent pas exactement ce qui va être enseigné, au sens où on leur donne pas les réponses d'avance, c'est pas qu'on leur communique les résultats d'examen, mais c'est que les dispositions qu'ils ont, ils sont familiers avec ce type d'attente-là. Et donc ils sont un peu comme des poissons dans l'eau dans le milieu universitaire ou dans le milieu scolaire, alors que pour d'autres ça va être un vrai choc, un moment de rupture, un moment de violence aussi, de se retrouver évalué face à des codes qui ne sont pas les codes de ton milieu.
Imaginez le stress que vous ressentez face aux évaluations. Les cauchemars, l'appétit et l'attention diminués par la boule dans votre ventre, l'impression que votre valeur personnelle se mesure selon ce que vous comprenez de la matière. Certaines personnes ressentent ça, fois mille, dès leur entrée dans le système scolaire. Assurément, réévaluer nos manières d'évaluer et outiller les familles est important. Mais revoir notre relation à l'échec, scolaire ou pas, voir notre définition même de l'échec, l'est tout autant.
Il faut arrêter de dramatiser l'échec. L'échec fait partie de la vie. L'échec est normal. L'échec est incontournable dans certains secteurs, à certains moments de sa vie, dans certains épisodes particuliers. Il est complètement inévitable. L'apprentissage passe beaucoup par l'expérience de l'échec. Mais il faut une réflexion sur l'échec. Il faut prendre le temps de s'arrêter et dire « OK, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? »
Une autre forme d'échec dans le domaine de la création musicale, c'est toutes les œuvres en fait, qu'on fait pour soi puis qui, ultimement, n'ont aucune visibilité parce que tu le fais comme juste parce que tu aimes ce que tu fais. Tous ces projets-là ne verront jamais le jour. T'sais, j'ai des disques durs qui sont pleins de compositions que je n'ai pas envie que ma petite sœur entende. Ces chansons-là, oui, professionnellement, on pourrait considérer ça comme un échec, mais c'est quand même grâce à ces panoplies de chansons-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, je fais des compositions que je suis capable de mettre de l'avant pour faire comme « Hey, regardez qu'est-ce que je fais, c'est pas si mal, non? » Puis, si j'avais pas eu cette pratique-là, si j'avais pas, pendant des années, fait des affaires pour le plaisir, j'aurais jamais comme le... Ben, on pourrait dire le talent, mais je pense que c'est plus le travail.
L'expérience.
L'expérience, exactement. L'expérience que j'ai aujourd'hui, tu sais.
Pour moi, en fait, c'est jamais vraiment complètement perdu, les expériences négatives qu'on peut vivre par rapport à un travail de création. Pour moi, l'échec est très important. Et puis, c'est une chose aussi que j'essaie de passer dans mes ateliers avec mes étudiants, c'est que tant qu'on n'essaie pas d'échouer, on ne sait pas jusqu'où on aurait pu aller. Il faut bien les interpréter. Parfois, ça veut dire que tu dois travailler davantage. Mais parfois, ça veut dire tout simplement que ce chemin-là, ce n'est pas le bon et que tu dois trouver l'autre chemin. Parfois, l'autre chemin, c'est hors création. Et puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie hors création. On peut créer sans diffuser son travail. Ça ne rend pas le geste de création moins intéressant, moins valide nécessairement.
Un des conseils là, que j'ai lu d'un critique américain, il disait, c'est quel meilleur conseil que je peux donner à un artiste, c'est « find a job ». Il disait ça. Trouve-toi un job que tu haïs pas, puis que tu vas être capable de maintenir, puis qui va te permettre de faire ton art.
Moi, j'irais avec trouver un job qui est haï. Ça va te permettre de focusser tes énergies sur ta musique.
Et puis, toute ta rage, tu jamais.
Ben oui. Ben, de prendre un job qui est haï, vraiment, ça te motive à 2000%. Moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, là, puis ça me poussait à aller chercher beaucoup plus de contrats dans la fin de semaine, puis d'aller jouer, puis de créer mes chansons. Puis moi, ça m'a ancré, vraiment.
Mais, parce que là, tu as du succès.
Mais là, j'ai du succès. Exact.
C'est ça. Mais si tu n'avais pas eu ce succès-là, il faudrait que tu continues à faire un travail.
Exact.
Puis, ben, si tu haïs tellement ça que qu'au final, tu finis ta fin de semaine, tu veux juste prendre une brosse, puis pas créer.
Puis parfois, se reposer la question qu'on avait au début, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça?
Exact.
Pourquoi dans toutes les choses qu'on était, qu'on pouvait faire dans la vie, on a choisi celle-là? Et si les raisons sont suffisamment fortes, la personne va continuer à créer quoi qu'il arrive. Mm. Elle va trouver simplement un autre moyen de gagner sa vie.
Une des choses que j'aimerais voir, moi, c'est un documentaire sur tous les artistes qui abandonnent.
Ouais.
Tu sais, j'ai entendu ces histoires d'artistes en art visuel qui sont rendus à 60 ans, puis ils disent, j'ai rien, et je vais brûler tout ce que j'ai fait, tu sais. Puis là, je vais juste essayer de n'importe quoi pour pas mourir pauvre et triste, tu sais. Et donc, si on lâche pas, puis qu'on a une certaine forme de succès, je pense que les échecs peuvent nourrir. Mais quand les échecs sont à côté, un après l'autre, puis qu'on n'a pas assez de succès à travers ça, ben, je pense que ça peut vraiment tuer.
Mm-hmm. Ouais.
Je me rappelle, dans un vernissage, l'autre fois, je parlais à un artiste, puis là, je disais, « Ah, je viens de faire un autre appel de dossier, une autre subvention. Mm. » Puis je disais, « Ah, je pense que j'en ai juste un sur 20 qui fonctionne. » Puis là, il me dit, « Hey, c'est bon. Si t'en as un sur 20, moi, j'ai même pas ça, un sur 20. » Puis c'est là, « OK, ça en fait là, des noms. » là.
Il est délicat, cet équilibre entre notre manière d'évaluer nos réalisations et celle qu'utilise l'extérieur, les systèmes qui nous entourent. Et il a des effets à plusieurs niveaux.
Pour lancer une chanson à radio, il y a deux façons de faire. Soit qu'on appelle les 75 radios du Québec, principales chaînes, parce qu'il y en a des centaines de plus. On les appelle toutes individuellement. On prend en note, c'est qui le directeur musical. Puis là, « Hey, salut Gino, comment ça va? J'ai une nouvelle chanson que j'aimerais ça te présenter. » Puis là, tu essaies de vendre ta chanson. Ou tu payes un agrégateur radio ou un tracker radio qui, lui, connaît déjà toutes ces personnes-là. Lui, il va prendre ta chanson puis faire « OK, donne-moi 2 000 $ puis je vais appeler toutes les radios puis je vais essayer de lancer la chanson dans les radios. » La première fois que j'utilise ce service-là, ma chanson se ramasse sur Énergie. Je suis comme « Wow, c'est magnifique, c'est un gros succès. » Je réessaye le tout 6 mois plus tard, puis ben, la chanson qu'on pitch, ben, finalement, ça ne fonctionnait pas. C'est le genre d'échec que beaucoup d'artistes vivent, surtout justement côté musique, d'envoyer une chanson puis de se faire refuser tout simplement parce que ben, tu es comme le 25e, puis j'ai accepté les 23 premiers. Je suis désolé, mais c'est ça qui arrive. T'sais. On se bat contre des structures qui filtrent sans nécessairement avoir de barème de qui laisse passer, où il se fie un peu juste à la culture générale en ce moment, puis c'est tout un jeu de dés un peu. Là.
Ce sont des structures, si elles persistent, c'est qu'elles sont très efficaces, et elles persistent souvent sur le même type de projet, sur le même type de personne, etc. Quand même, on a de la chance de pouvoir faire ce qu'on fait, ça c'est sûr. Il y a tellement d'heures qui mériteraient d'exister dans le regard public. Surtout quand on se met à rentrer dans la manière dont les différentes dynamiques de pouvoir excluent une grande partie des voix artistiques qui existent, des voix qu'on n'a toujours pas entendues.
J'avais cette discussion-là avec un artiste à un moment donné, justement, quand j'allais vers l'influence du punk en art. Là, je disais, moi, je ne veux pas essayer de plaire à mes pairs puis juste répondre là, les coches de ce qui est tendance en ce moment. Je veux juste faire ce que je veux faire, puis s'il y en a un ou deux des pairs qui me comprennent au jury, ben tant mieux, tu sais. Puis là, l'autre, il me disait, oh, ouais, c'est risqué ton affaire.
Je pense aussi que c'est les plus et les moins du système de subvention. J'ai l'impression que parfois, la mécanique du système de subvention et de la reconnaissance par les pairs, et puis c'est une mécanique qui nous installe dans une sorte d'attente, soit une forme d'attente, soit une forme de « il faut répondre à une commande », qui n'est pas toujours la meilleure chose pour la création non plus. Il faut que quelque part la création soit un peu dissidente, soit un peu dérangeante, soit un peu ce qu'on n'attendait pas. Et puis parfois, un système bien huilé empêche ces moments de dissonance-là. Quand tu arrives à réaliser quelque chose que les structures avaient dit qui était impossible, tu viens de leur faire la démonstration qu'en fait, le problème, c'était elles. Et donc, peut-être que ça va les forcer à modifier leur fonctionnement un petit peu. Ça, c'est très intéressant.
Les systèmes, comme celui des subventions, évaluent donc les performances selon certains critères. Pas toujours optimaux et pas toujours en adéquation avec la réalité. Qu'est-ce que ce décalage peut avoir comme conséquence?
Prenons le cas du TSO, par exemple, dans le milieu de la santé. Là, on a un problème parce qu'on a une pénurie de personnel. Fait que l'administration qui est habituée de fonctionner avec un certain type de rendement puis un certain type de service est obligée de mettre des contraintes supplémentaires sur le dos des personnes pour arriver à répondre aux exigences organisationnelles qui consistent à mettre du staff sur le couloir puis à répondre aux besoins des malades. T'sais. Il y a des besoins fonctionnels qui ont été définis à un moment donné dans une histoire des organisations en fonction de certains principes, certaines valeurs qu'on avait. Et maintenant, dans certains cas, on a des problèmes parce qu'on n'est plus capable de rencontrer ces exigences-là. Le système, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste nous présenter des idéaux puis des modèles purs d'exigences de tout ça. Fait que chacune des exigences, elle est totale, puis elle demande tout jusqu'à un certain point, mais c'est comme si nous, on intériorise un paquet de demandes, puis là, on n'est pas capable de satisfaire toutes ces demandes-là. Et le fait même de ne pas pouvoir satisfaire toutes ces demandes crée une souffrance chez nous. Fait que là, une des stratégies, c'est de dire, dans les organisations, on va baisser les exigences. C'est un effet pervers, à mon avis, de ce même phénomène-là. C'est que comme on s'aperçoit qu'on a des exigences qui sont irréalistes, ben on va accepter des résultats moins intéressants en disant « c'est correct, ça va faire pareil bon. ». Mais ça, c'est un piège parce qu'on se retrouve avec des demi-succès qui ne sont pas si intéressants que ça, mais qui suffisent à la tâche. Alors que si on avait éliminé des exigences au départ, si on avait simplifié notre équation, on aurait peut-être plus de facilité à arriver à des choses vraiment satisfaisantes. Et là, le problème, c'est que si on maintient les exigences telles qu'on les a formalisées antérieurement avec un corps professionnel plus important, puis là, on n'a pas le personnel pour faire le travail, ça ne marchera pas. Fait que là, il va falloir réévaluer, puis repenser. Ça, c'est complexe. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il faut commencer par poser le problème avant de le résoudre. Première chose. Et c'est pas sûr que notre compréhension spontanée du problème est la bonne. Il faut commencer par regarder comme il faut la situation, puis prendre le temps de le faire. Mais on n'est pas habitué à faire ça. Mais sauf que je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Parce que ça craque, là, ça craque. Bon, est-ce que ça va continuer comme ça?
Quand je lui ai demandé qui était ce « on », si « on » désignait juste les gouvernements, Alain s'est empressé de m'expliquer que non. Il inclut dans « on » les groupes organisés à tous les niveaux de notre société.
Beaucoup de gens ont des pouvoirs. Dans les organisations, on a du pouvoir. Il faut prendre le temps de regarder, premièrement, c'est quoi les pouvoirs qu'on a. Mais on en a.
Si beaucoup de gens ont du pouvoir, comment certains systèmes en sont-ils arrivés à imposer des contraintes parfois lourdes sur le dos des individus? Ou peut-être, comment en sommes-nous venus à accepter autant de contraintes de la part des systèmes en place? Ces questions-là, c'est à Baptiste que je les ai réservées.
Je pense qu'en fait, nos imaginaires collectifs sur la réussite et l'échec sont traversés par l'idée qu'on a une responsabilité individuelle dans notre situation, que ce soit une situation d'échec ou de réussite. Et cette idéologie a pris le dessus sur d'autres récits collectifs qui mettent de l'avant l'idée que si on s'en sort, c'est grâce à la solidarité et à l'entraide. Dans le cadre du cours Inégalité, pauvreté, exclusion, j'aborde les idéologies, c'est-à-dire des discours dominants, des histoires collectives qu'on se raconte qui justifient les échecs sociaux de certaines personnes et les succès aussi de certains groupes. Et dans une des séances, ce que je fais souvent, c'est que je propose aux étudiants d'engager avec leurs amis et familles une discussion à propos de la pauvreté. Puis quand on revient en classe, on fait un retour, puis je leur pose la question, quelle représentation de la pauvreté et de la richesse les discussions que vous avez eues selon vous véhiculent? Comment les personnes à qui vous avez parlé expliquent ce que c'est la pauvreté? Puis ce qui sort souvent, c'est des termes de la vie ordinaire, comme l'effort, le mérite. Parfois, ils parlent de salaire, mais malgré tout, quand on creuse, on remarque souvent que ultimement, une des causes de la pauvreté, elle est située dans ces idées-là, dans l'incapacité individuelle des personnes à soit épargner, à faire un budget, à investir, à avoir du bon jugement. Donc, on remarque qu'on individualise beaucoup, on responsabilise beaucoup les individus pour leur échec social, pour le fait qu'ils soient en bas de l'échelle, ou à l'inverse, on explique des comportements de personnes ayant réussi par leur esprit d'entrepreneuriat, par encore une fois des qualités individuelles. Et dans le cours, on se questionne sur d'où ça vient ces représentations, ces conceptions individualisantes, à quel moment elles se sont développées dans l'histoire. Et donc, on prend un peu de recul, on fait un saut historique et on retourne dans le 19e siècle où il y a eu tout un tas de discussions sur la responsabilité sociale. Parce que la méritocratie, on pourrait définir ça comme une norme de justice ou un principe moral, un système qui justifie dans le fond que l'accès aux positions les plus prestigieuses, aux honneurs, elle découle de notre mérite individuel, de nos efforts, de nos talents, de notre motivation. Je parlais du 19e siècle un peu comme étant un moment où il y a eu beaucoup de réflexions sur ça et où cet idéal méritocratique s'est vraiment constitué. Et dans un contexte particulier, un contexte de révolution industrielle en Europe, où on produit de plus en plus de richesses, mais malgré tout, il y a une grande partie de la population qui reste dans la pauvreté. Puis on disait, comment c'est possible qu'on accroisse collectivement notre richesse, mais qu'il y ait autant de personnes qui restent dans la pauvreté? Puis il y a eu tout un tas d'explications, notamment il y a quelqu'un qui s'appelle Herbert Spencer. Lui, il regardait les travaux de Darwin et il a dit, s'il y a des gens qui restent dans la pauvreté, c'est que c'est les moins aptes. Dans le fond, ceux qui montent dans la hiérarchie sociale, c'est les plus aptes à s'en sortir. Ils deviennent les plus riches et puis les moins aptes deviennent en quelque sorte les plus pauvres. Et il dit, c'est même important qu'il y ait de la pauvreté parce que ça motive les gens à ne pas tomber dans la pauvreté, puis à essayer de faire tout notre possible pour essayer de monter dans cette échelle sociale. Thomas Malthus, qui lui disait, les pauvres sont pauvres parce qu'ils font trop d'enfants. On voyait la cause de la pauvreté et de l'échec à améliorer sa situation dans le lit des pauvres en disant, ils sont responsables de leur fécondité excessive, c'est pour ça, s'ils étaient plus intelligents, plus capables de bon jugement, ils regarderaient qu'avec une famille moins nombreuse, on est capable de moins diviser sa richesse et de moins s'appauvrir. On voit bien un peu, on rigole de ça, mais ces conceptions-là ont laissé des traces. À la même époque, peut-être quelque chose de plus optimiste à indiquer, c'est qu'il n'y a pas simplement de ce type d'idéologie individualiste qui justifie les inégalités sociales. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Pierre Kropotkin, qui a écrit un ouvrage au tout début du XXe siècle qui s'appelle « L'entraide ». Et lui, à partir des observations du vivant, à partir de l'observation des personnes en communauté, il arrive à un tout autre constat que le constat qui justifie le discours méritocratique. Lui, c'est un biologiste, et lui, en fait, il observe plutôt que dès qu'on laisse des personnes ensemble et qu'on leur donne les moyens de s'organiser, ce qui se passe, c'est l'entraide et la solidarité. Il prend l'exemple des paysans dans des communautés rurales où il y a des prés communaux, un pâturage. C'est vraiment l'endroit qui est à disposition de tout le monde pour venir cultiver ses légumes. Et puis, ils s'organisent pour des tâches collectives la fin de semaine, avoir une qualité de vie meilleure. Puis, il prend aussi l'exemple des coopératives de travail où les travailleurs et travailleuses s'organisent pour mutualiser leurs ressources. Finalement, il dit l'échec, la pauvreté, c'est quand les hommes et les femmes sont empêchés de s'entraider. C'est quand on leur retire les moyens de s'entraider, finalement, que les personnes se retrouvent dans l'échec. Et le rôle de l'État, il va dire le rôle de la puissance publique, ça va être de soutenir ces initiatives d'entraide et de solidarité. Il y a eu deux moments dans l'histoire du XXe siècle où on s'est aperçu que ce discours méritocratique, c'était vraiment une idéologie qui tournait à vide. La première fois, c'est lors de la crise industrielle de 1929, qui démarre à New York, mais qui a des répercussions dans le monde entier. Et là, on se rend compte que finalement, c'est pas l'effort et le mérite des individus. On est vraiment face à tout un système de financiarisation du monde. On est face à un monde qui est extrêmement interconnecté. On n'est plus dans simplement la conduite individuelle d'une vie. On est vraiment dans des dynamiques collectives. L'autre moment, c'est la Seconde Guerre mondiale. On se rend compte que finalement, l'organisation de la société pendant la guerre est beaucoup plus efficace quand c'est l'État qui prend en charge l'organisation, la centralisation, la production, qui va conduire à la mise en place d'institutions publiques qui vont contribuer à instaurer tous les progrès sociaux qu'on connaît, les assurances collectives, la sécurité sociale, etc. Les grandes crises économiques vont faire leur retour dans les années 70-80. Et là, on va voir réapparaître cette idéologie de la responsabilisation des individus. Dans la palette politique, il n'y a pas juste de modèles, il y a toute une variété de modèles. Et puis Kropotkin, dont je parlais, c'est un anarchiste. Je pense à l'anarchisme comme étant, c'est pas aucun État, la lutte de tous et contre tous, où l'État va venir élever le collectif. On est vraiment dans une réflexion sur des petits collectifs autogérés, sans l'aide de l'État, et où on reconnaît la contribution de chacun dans la valeur du collectif. Dans ces collectifs-là, je pense qu'il y a une grande valeur de l'individu, de ses compétences, de ses talents, mais mobilisés au service du collectif. Il n'y a pas de tension ou d'incompréhension à célébrer la richesse et la diversité des talents et des compétences que les gens ont dans une visée que ça bénéficie au collectif. Et je pense que dans nos contextes de crise, bouleversements sociaux, climatiques, on commence à redécouvrir ça, qu'à l'échelle locale, la transition sociale et climatique, on va devoir la faire dans un esprit de solidarité locale. Ça va être soit personne, soit tous ensemble. Et donc, nos épreuves de crise sanitaire, de crise sociale, nous amènent à être critiques vis-à-vis de ce discours individualiste et à nous réapproprier, je pense, nos luttes collectives, nos succès collectifs dans l'histoire qui ont permis de s'élever collectivement, pas les uns au détriment des autres, mais collectivement.
Dans un monde où, pour le moment du moins, on considère comme purement individuel les résultats de nos efforts, j'ai voulu savoir comment les quatre artistes vivaient avec le risque que représente leur création et sa présentation au public. Et surtout, comment la crainte ou l'expérience de l'échec les affecte.
En ce moment, justement, je fais un album dans lequel j'écris des textes, j'écris la musique, j'écris le tout. Cette vulnérabilité-là, j'avoue que ça me fait peur, mais je préfère pas trop y penser. J'aime faire ça et je trouve ça pertinent pour moi. Je me lance.
Pour parler de mon expérience, ça va dépendre un peu de la taille de l'échec. J'ai travaillé super fort pour le lancement d'une publication avec exposition et performance qui ont eu lieu ici à Sherbrooke et à Montréal, mais qui devaient aussi avoir lieu à New York. Et j'ai travaillé très fort avec les partenaires, m'aller trouver des sous, puis m'arranger pour que ça fonctionne, tu sais. Puis, j'ai lancé ça au jour 1 de la pandémie au Québec, qui était donc déjà bien lancé à New York. C'est passé donc de report en report à des voyages à New York qui ont servi à rien. Et bref, ça a été une sorte de gros échec à travers lequel j'ai fait aussi une œuvre. J'ai fait un canular pour parler de ça, puis ça m'a nourri. Mais ça a vraiment fait super mal aussi. Parce que j'avais investi beaucoup Bon, je sais que c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde est passé à travers ça. Mais ça m'a mis à terre en partie. Tu sais, j'ai continué à fonctionner, mais ça m'a amené à réfléchir à nouveau à si je veux continuer. Tu sais.
L'échec de trop, celui qui brise quelque chose qu'on n'arrive pas à reconstruire ou qui ébranle nos fondations. Cet échec-là m'apparaît comme à part. Tellement à part que je me suis adressée à Alfonso Santarpia du département de psychologie. Professeur et psychologue clinicien, Alfonso s'intéresse à la manière dont nous traversons les crises existentielles. Et justement, j'ai voulu savoir comment lui définirait une crise existentielle, le fameux échec de trop.
C'est toutes les situations où ton être est déraciné de tes sources de vie, qui met en discussion, te déracine de toutes les choses qui normalement font partie de ton identité professionnelle, affective, existentielle. Là, je parlerai de crise. Comme un événement qui est systématiquement, dans ta façon de vivre le monde, ébranle toutes tes sécurités. Dans l'affectivité, dans les liens avec l'autre, dans le rapport avec le monde, avec le rapport avec toi-même, même avec ton corps. En te regardant dans le miroir, on dit « je ne me reconnais plus ». Il y a des moments où il y a des situations très claires, on le sait, dans la littérature, qui sont quand même génératrices de crise existentielle. Le moment de l'adolescence, par exemple. Il y a le changement biologique qui fait que l'ado, à un moment donné, se retrouve dans une tempête d'hormones et ne sait plus quoi faire vis-à-vis de ça. Il y a des crises pour lesquelles on ne peut rien faire. Si quelqu'un vous dit que vous êtes en train de mourir, il n'y a pas, vous ne pouvez pas sortir. La question de la mort est là. Il faut uniquement accepter et trouver une figurabilité, trouver une façon digne et belle de répondre à la crise. Et là, c'est vraiment des moments très difficiles quand on est en deuil, par exemple. Il y a des crises existentielles qui sont liées à des thématiques. Découvrir la solitude ou découvrir les grandes questions de l'humanité qui font que vous entrez en quelque chose de très, très questionnant vis-à-vis de vous. Et souvent, la question reste. On ne peut pas uniquement retrouver la joie de vivre et basta.
Mais il y a aussi des situations qui apparemment sont anodines, mais ça peut toucher plusieurs sphères de la personnalité et qui font que la personne entre dans un tunnel très profond. C'est pour cela que c'est très important de justement voir le rapport entre la situation et, je dirais, la ramification et toutes les sphères que cette expérience touche chez l'autre. Cet déracinement de l'être vis-à-vis de ses sources de vie. J'utilise vraiment cette formule-là pour vraiment l'image d'une plante qui, à un moment donné, n'a plus les racines pour se nourrir. Et quel est le risque? Le risque, c'est qu'il n'y ait plus de vie, qu'il va vers une vide existentielle, une forme d'amertume généralisée. Or, au contraire, ça peut devenir un lieu, la crise, où il y a des réponses possibles, où tu peux te retrouver, mais d'une façon tout à fait nouvelle.
Comment nous y prendre pour emprunter le chemin le plus nourrissant? Exigeant aussi, mais ultimement nourrissant.
La première chose est justement pas passer à l'acte. Parce que souvent, quand on est dans cette sorte de tunnel noir, ou cette sorte de perte de sens, c'est très intéressant souvent d'accepter qu'il y a un moment de mise en question. OK, il y a quelque chose qui me touche, restons. OK, pas d'action, il y a une tristesse énorme qui arrive, attendant qu'il y a quelque chose qui peut émerger. Évidemment, on ne peut pas rester tout le temps dans cette sorte de... Je parlerai de vide fertile. Quand il y a ce vide, tout le monde veut mettre quelque chose. Ça, c'est souvent le problème aussi. Que chacun va te donner la bonne recette. Ah, mais non, mais ça arrive, ça va arriver. Toi, jeune, ça va arriver. Fais ça. C'est pour ça que ce vide peut t'amener à une solitude, évidemment. Tu essaies d'explorer des expériences qui peuvent être génératrices de sens. Ou au contraire, si tu te fermes, si tu te rigidifies dans la bonne réponse, immédiatement, je risque que la bonne réponse va vers l'échec. Ta personnalité est totalement en question. Ce n'est pas une petite réponse qui va essayer de vraiment de te nourrir. On vise l'échec parce que ce sont des solutions toujours superficielles. Et l'individu, l'être, risque de se sentir pas en solitude, mais en isolement. Ce n'est pas la même chose. En isolement, parce qu'il se sent que ce qu'il ressent, ce n'est pas valide. Mais à la place d'aller immédiatement à chercher une réponse, par exemple. Immédiatement vouloir sortir de la crise et faire n'importe quoi. mais rester dans cet espace de vide et progressivement de transformer ce vide fertile en un espace de représentation, je dirais, où on peut mettre peut-être des nouvelles idées, une nouvelle façon de regarder le monde, une nouvelle façon de voir sa propre sexualité, une nouvelle façon peut-être même de vivre. Mais ça peut être simplement aider quelqu'un d'autre. C'est découvrir que jusqu'à là, on a vécu en se regardant notre nombril, non? Et à un moment donné, on décide que la vie, ce n'est pas uniquement se regarder à l'intérieur de soi, mais aller peut-être faire du bénévolat, par exemple, chose qu'on n'a pas fait. Ce type de proposition, que souvent, ça peut venir directement de soi-même, mais peuvent être aussi générées par quelqu'un, un psychologue, un assistant social. Ce sont des personnes que, justement, ils sont en contact avec cette blessure. Ils savent qu'il faut du temps. C'est uniquement la personne même qui peut trouver la réponse. Ce n'est pas moi que je donne la bonne réponse. Je dirais qu'ils sont des accompagnateurs dans ce lieu obscur dans lequel tu es. Il y a un art de l'accompagnement où je t'accompagne où tu es, dans l'enfer, mais je ne donne pas les outils pour sortir. Tu n'es pas seul dans cet enfer, il y a quelqu'un qui te donne des mots, je t'écoute, je peux t'accompagner, je peux te soutenir, mais la réponse, ça doit être vraiment de toi.
La manière dont Alfonso et son équipe travaillent la mise en sens avec les gens auprès desquels ils interviennent fait presque un clin d'œil à Joël, Élie, Stéphane et Sébastien. Pour permettre aux patients et patientes de traverser le vide fertile par leur propre chemin, ils recourent à l'art. J'ai demandé pourquoi et comment.
Chacun trouve son art, justement pour répondre s'il y a des moments difficiles. L'art, c'est par définition le lieu de la figurabilité. Ça donne des figures, même si ce ne sont pas des figures rationnelles.
La première chose que l'art permet est justement de mettre en forme quelque chose que la parole ne permet pas. Ça, c'est la première chose. La capacité de symboliser, de métaphoriser. L'art a cette capacité-là que la parole, la grammaire, qui par définition a des règles. Quindi l'art mobilise nos capacités, je dirais, analogiques. Que nous, on ne pense pas uniquement linéairement, cause-effet. Toutes les capacités analogiques, le symbole, l'art, par définition, travaille sur ça. Ça libère, parce que l'émotion a pris une forme. Mais pour donner un sens, pour moi, il faut impliquer des capacités pour d'élaboration. Alors ça peut être, mais qu'est-ce que c'est pour toi ça? À quoi tu peux l'associer? Est-ce que tu peux mettre deux mots à côté? Ça te fait penser à quoi? La créativité, uniquement pour créer quelque chose, je trouve que dans ce contexte-là, doit être associé à un travail de mise en sens et qui doit être interrogé par quelqu'un qui est à côté, peut-être.
Je m'intéresse beaucoup à un moment très difficile, qui c'est le moment où des personnes âgées, normalement, reçoivent l'annonce qu'il n'y a plus beaucoup de choses, beaucoup de moments à vivre. Donc moi, je m'intéresse beaucoup de la place de l'art dans ce moment-là. En fin de vie, surtout dans le milieu du cancer, les personnes âgées s'identifient comme maladie. Leur façon de parler de soi, c'est « j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, je vais mourir ». Oh, des métaphores plus de guerre. L'art, souvent, ça t'amène à une autre forme de discours. L'art amène comme des expériences corporelles, par exemple. Là, c'est la musique. La musique amène souvent des images, des métaphores, qui ont un impact même sur les sensations physiques. Je respire mieux. J'ai l'impression que la musique me fait respirer mieux. Et ce n'est pas souvent uniquement l'impression. C'est effectivement parce qu'on se relaxe aussi. Il y a des études sur la musicothérapie qui ont montré qu'il y a cet effet de réduction sur le stress qui souvent est mesuré par le cortisol.
Et c'était l'hypothèse. Et qu'à plusieurs reprises, on a réussi sur des études de cas. On a réussi, ce que vous imaginez, en soins palliatifs, on ne peut pas faire des protocoles sur 1000 personnes parce qu'ils n'ont pas le temps. Le protocole est structuré, mais on s'ajuste justement au moment triste, au moment de solitude dans lequel la personne est. En cherchant d'écouter ce que la personne exprime.
Quand je lui demande un exemple concret, observé à partir d'un protocole effectué par son équipe, Alfonso me parle d'un patient précis que j'ai vite baptisé, dans ma tête, l'homme au haïku.
Il était en fin de vie, plein de métastases, bloqué, déprimé. Je suis dans la paralysie, je suis paralysé, je n'ai plus envie de vivre. Et surtout à faire un protocole d'haïku. C'est un type de poésie où il y a beaucoup de la nature, où on se questionne sur la nature, sur la vie. Il y a beaucoup de petites images très belles sur lesquelles on peut se poser. Ça te permet d'accéder à un monde naturel où ton corps s'ouvre. Ton corps ne s'identifie pas uniquement à la maladie. Ce monsieur qui, évidemment, au début de l'interview,
il y a un discours qui se focalise sur le médical. Or, uniquement sur les aspects les plus, je dirais, contraignant, physique. Je me sens entre parenthèses. Il y a des métaphores qu'il utilisait. Je n'ai plus envie de vivre. Il ne sortait plus de son... Sortir, pour moi, ce n'est pas uniquement physique, c'est même sortir. Il était quelqu'un qui aimait imaginer. Même sa façon d'imaginer était bloquée. Et c'est comme si l'haïku puisse aussi élargir la sensorialité. C'est ça l'hypothèse qu'on faisait, que ce monsieur qui parle uniquement de mauvaise digestion, de l'amertume, il puisse avoir, à travers les haïkus, d'avoir l'imagination de son chat qui n'était plus là. Imaginer ses chats et raconter à travers des poésies cette sorte d'attachement qui n'est plus là, qui n'est plus présent, qu'il parle à un moment donné d'un olivier centenaire. Évidemment, si tout reste là, c'est une image. Mais quelqu'un peut l'interroger, pourquoi centenaire? Ça signifie que tu t'interroges sur le temps, la temporalité. Est-ce que tu as jamais pensé qu'est-ce que tu vas devenir après ta mort? C'est plus une question simplement d'exprimer. Il se questionne. Ça amène, je ne parlerai pas d'un plaisir immédiat, mais ça amène une profondeur à ce qu'il est en train de vivre. Qu'on n'est pas uniquement lié à une maladie, à la souffrance, mais ça donne des questions spirituelles que probablement la personne ne s'est posée pas jusqu'à ce moment-là. Je sais que ce n'est pas quelque chose de tangible, mais quand même, au niveau de la conscience de cette personne-là, il y a une autre façon de vivre la mort. Il peut se sentir peut-être plus en paix avant de mourir. Il se sent peut-être qu'il a un espoir. Quelqu'un qui est dans le désespoir, qui a toujours l'idée mort égale néant, avec une image comme ça, simplement une image, peut-être que je vais continuer à vivre. Et le travail qu'on fait sur l'art, c'est justement aussi pour travailler sur la transmission. Vous savez, un deuil, c'est beaucoup moins complexe, je dirais comme ça, quand on voit aussi que la personne qui meurt a aussi des moments, entre guillemets, de dignité, d'amour encore pour la vie, des formes d'amour pour la vie. Et pas uniquement des éléments mortifères ou de maladies. Faire partir quelqu'un avec une poésie, en sachant que quelques moments, il a pu s'élever, il a pu penser, pas à la maladie, mais à vécu. On parle de plénitude de vie. Je pense que c'est quand même important. Voir partir un papa ou une maman, mais avec cette sorte d'horizon, qui n'est pas l'horizon uniquement de « ok, il était triste, il était malade, il souffrait, et basta. » Non, il nous a écrit une poésie. Quel meilleur héritage? Ce n'est pas un héritage d'argent, c'est un héritage de vie, de beauté aussi, et que je pense qu'il n'a pas de prix.
L'échec comme le succès, et toutes les nuances entre les deux, ça se traverse en solo ou en groupe. Vous donnez-vous le temps de rater? De réussir, vous donnez-vous le temps de vivre? J'ai formulé mille et une conclusions pour regrouper tout ce que vous venez d'entendre. Mais finalement, je préfère céder la parole à l'homme au haïku.
L'olivier centenaire devant moi déploie ses rameaux et sa couleur. Je sens devant lui mon existence éphémère. Quand mon chat s'abandonne et ronronne sur mes genoux, je sens qu'il est bien confiant, heureux. À mon tour, mon esprit s'apaise. L'odeur des herbes coupées, c'est le printemps qui revient. Et on oublie le temps qui, chaque année, passe.
Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous aux histoires qu'on se raconte sur votre plateforme de balado-diffusion préférée pour ne pas manquer le prochain. J'explorerai les histoires qu'on se raconte sur nos responsabilités face aux autres. Merci aux spécialistes qui ont participé à cet épisode. Alain Létourneau, du département de philosophie et d'éthique appliquée, Baptiste Godry, de l'École de travail social, Alfonso Santarpia, du département de psychologie. Merci aussi aux artistes qui ont accepté de partager leur vision du succès et de l'échec et qui sont liés à l'École de musique, au département des arts, langues et littérature, ou au département de communication. Joël Lupien-Faneuf, Élie Gagné, Stéphane Mertelli et Sébastien Pezeau. J'adresse un remerciement tout spécial à Yves Bouchard, professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée, qui a prêté sa voix à L'homme au haïku. Le texte d'introduction est lu par David Bergeron, technicien en informatique à la Faculté des lettres et sciences humaines. L'indicatif musical, Songes et réflexions, est signé par Joël Lupien-Faneuf. Oui, le même. Vous le savez si vous avez tout suivi. En plus d'être diplômé au bac en musique, Joël est un compositeur inscrit en développement et réalisation d'une production artistique. Merci à Francis Martel-Filteau, diplômé du baccalauréat en musique, cheminement en composition et musique à l'image, pour toutes les améliorations audio apportées à cet épisode. Je m'appelle Amy et vous avez écouté « Les histoires qu'on se raconte ».